Pauvre Candice. Pauvre Candice qui s'est fait complètement avoir par deux filles de son équipe et qui est la quatrième éliminée de Koh-Lanta, les armes secrètes. Salut à tous, c'est Damien et bienvenue pour ce quatrième épisode d'Autour du Feu consacré à cette saison. Et avec moi aussi, donc toute une équipe qui va débriefer cet épisode. Alors vous le connaissez grâce à ses reviews sur Topito qui font rire beaucoup de gens, nous y compris. C'est Freeze, salut Freeze.
Bonjour Damien, bonjour tout le monde. Moi je ne dirais pas pauvre Candice, mais nous allons en reparler. Non, je reviens tout de suite.
Non, mais je comprends. C'est vrai que du coup, il y a des avis un petit peu contrastés avec ce que dit le public, avec ce qu'on pense et tout, mais ça va être intéressant d'en parler.
Tout à fait.
Ensuite, notre voix de velours, c'est la première fois qu'il interviendra sur cette saison, c'est Gino. Salut Gino.
Salut Damien, salut tout le monde. Franchement, très bel épisode, j'ai hâte d'en parler.
Ensuite, là, il était intervenu lors du tout premier épisode, c'est Jade. Salut Jade.
Salut Damien, bah écoute, très heureux d'être de retour pour une deuxième fois sur Autour du Feu.
Alors, du coup, donc l'épisode commence, on va tout de suite se lancer dans l'épisode, donc ça commence par les jaunes qui n'ont toujours pas de feu, et du coup, commencent un petit peu à se sustenter avec des bigorneaux crus, voire des crabes qui trouvent un petit peu partout. Et en fait, c'est un épisode qui a été, on va dire, les deux tiers étaient vraiment très très axés sur la survie en tant que telle, puisqu'on les a vus surtout pêcher, donc essayer de manger. Alors, pareil, donc il y a pas mal de spectateurs qui aiment ça justement, voir beaucoup de scènes de survie. Vous, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous gonfle? Le premier qui prend la parole.
Moi, je continue de trouver ça intéressant, même après je ne sais combien de saisons. Je trouve que c'est un aspect qui a été, comme tu disais justement, un petit peu oublié sur certaines éditions passées. Et c'est quand même dommage parce que au-delà de la stratégie des éliminations, des épreuves, etc., c'est quand même la base du jeu. C'est-à-dire de voir comment des gens vont s'en sortir dans un milieu qui n'est pas le leur d'habitude. Et c'est des fois un petit peu expédié, notamment ces dernières années où ils ont le feu quasiment tout de suite. Alors des fois, c'est eux qui le font, même la plupart du temps, c'est eux qui le font, parce que les mentalités ont évolué, que les joueurs sont de plus en plus préparés aussi. Donc peut-être que c'est moins intéressant de montrer la survie, parce que bizarrement, la survie devient de plus en plus facile pour eux, mais parce qu'il y a eu ce travail de préparation. Là, cette année, je trouve que c'est un petit peu plus axé là-dessus, et c'est sympa, parce que c'est pas cliché, c'est voilà, comment peut-on faire avec, ouais, comme tu disais, du crabe cru, sans feu, sans canne à pêche, etc. Après, c'était pas trop long sur cet épisode-là, donc je trouve que c'est tout à fait acceptable. Quand ça s'éternise un petit peu sur « on n'a pas le feu, on est malheureux » pendant tout un épisode, c'est un peu autre chose, je trouve. Mais là, ça s'y prêtait bien, ça montrait justement comment il y avait quand même, chez les jaunes, un peu une cohésion autour de ça, malgré la difficulté de vivre sans confort aucun. Donc non, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, et de manière générale, c'est des séquences que j'apprécie plutôt, parce que je trouve que ça fait partie du jeu autant que le reste.
Moi, personnellement, c'est des séquences que je trouve un peu longues, surtout sur les premiers épisodes, souvent dans la phase par équipe. On est souvent lors des séquences avant l'épreuve d'immunité, quasiment que ça. C'est-à-dire que quasiment toutes les séquences vont être basées sur la survie. Et le truc, c'est que sur certains moments, ça peut être sympathique. Je pense notamment à cette équipe jaune qui galère plus que d'habitude. Donc forcément, c'est cool de voir comment ils se débrouillent. Mais j'ai l'impression que très souvent, et on revoit ça avec les rouges, ça fait un peu filler. Genre, c'est vraiment des séquences qui sont mises pour pallier le manque d'image qu'il peut avoir à côté. Parce que autant du côté des jaunes, je trouve ça très drôle parce qu'à côté, on peut voir comment ils galèrent. Et je trouve que ça rend très bien. Ça permet aussi d'un peu expliquer ce qui se passe sur le camp. Mais par contre, côté rouge, je m'ennuie très fortement quand il y a ces séquences de survie.
Alors, sur la survie, je pense que c'est toujours un bon équilibre à trouver. Mais après, voilà, il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que nous, là, on parle entre passionnés, entre gens qui avons décortiqué les montages des tas de fois. Alors que le montage est surtout destiné à un public général, qui n'a pas autant ce sens des ficelles. C'est un petit peu, je sais que je vais encore parler de catch, vu que je suis un immense fan, mais quand tu es un grand fan de catch, tu sais à peu près où les scénarios vont aller, vu que tu as l'habitude de comment ils se font. Alors que le spectateur moyen qui ne passe pas son temps à faire des thèses, lui, il se fait prendre au jeu. Et là, en fait, je pense que les scènes de survie étaient essentielles pour une chose. Déjà, c'était par rapport à ce qui se passe au moment du jeu de confort. Parce que les jaunes, ils vont gagner deux allumettes. Et il faut mettre une dramaturgie derrière ces deux allumettes. Et si jamais tu ne mets pas toutes les scènes de survie avant, où tu montres bien qu'ils galèrent avec tous les aliments crus qu'ils doivent manger, tu peux pas rendre cette scène aussi libératoire. Et donc, du coup, déjà, c'est une bonne convention narrative. Et ensuite, voilà, on va revenir sur la survie en elle-même. C'est que, voilà, il ne faut pas oublier que, je répète tout le temps, Koh-Lanta, c'est 4S. On a la stratégie, le social, le sport, la survie. Le social, on sait que c'est très dur de le restituer. Mais voilà, il faut quand même un bon équilibrage entre les trois autres S. Et bah, par exemple, beaucoup de fans qui nous écoutent aiment Survivor. Survivor a complètement délaissé le S de la survie. Et je trouve ça très dommage. Donc au contraire, c'est très très bien que la production là-dessus nous rappelle bien l'importance de chacun des trois S. Et sur cet épisode, je les ai trouvés plutôt bons. Peut-être que certaines scènes de survie ont été un peu longues. Mais honnêtement, franchement, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est un bon épisode. C'est bien équilibré. Donc honnêtement, j'ai pas grand-chose à redire du montage. Pour une fois.
On revoit encore donc, là, vraiment la tendance de cet épisode. C'est-à-dire que Candice est complètement mise de côté. On sait pourquoi, parce que les rouges le disent, mais on le voit très très peu. C'est-à-dire que c'est difficile à comprendre. On dit que Candice est insupportable, mais au montage, c'est très difficile à comprendre. Enfin, je ne sais pas, vous, quel a été votre sentiment vis-à-vis de ça?
Alors, perso, j'ai trouvé que, comme tu le dis, le montage a été un peu du côté de Candice. C'est surtout des séquences de Candice seule qu'on voit, des séquences où elle n'est pas à l'aise, des séquences où elle s'inquiète. Donc, on a une certaine sympathie envers Candice qui se crée. Et on galère en fait à comprendre en quoi elle a été insupportable. On peut comprendre qu'elle est mise de côté de l'équipe. C'est clair en fait, on voit très bien qu'elle n'est pas à l'aise, que les candidats l'évitent un peu, mais on ne sait pas pourquoi. Et du coup, voilà, je pense que c'est surtout un choix de montage qui a été fait de se positionner un peu du côté de Candice. C'est un choix qu'on a l'impression qu'on voit assez souvent en fait. Pour ces candidats-là un peu sur le côté, je pense notamment à Estelle sur la saison récente. Et voilà, je pense que ça apporte un peu au conseil de se mettre du côté de la personne qui est en difficulté dans l'équipe. Et du coup, je pense que c'est un choix de montage.
Ouais, je suis assez d'accord avec Jade. Je trouve ça un peu compliqué. Il nous manque pas mal d'éléments. On a d'un côté Candice qui a l'air très frustrée de sa place dans la tribu. Et de l'autre côté, une tribu qui a l'air pas remonté, mais en tout cas un peu un peu méfiant et un peu saoulé par elle. Mais on n'a pas vraiment eu de séquence. Il y en a eu une très rapide au moment de la construction de la cabane, je crois, au premier ou au deuxième épisode, mais enfin c'était très léger. Et puis les propos de Candice à ce moment-là étaient quand même assez anodins. Donc ouais, c'est un peu bizarre. Il faudrait sortir la Snyder's Cut là, parce qu'on a clairement l'impression qu'il manque des gros bouts pour qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé. Effectivement, le montage est plutôt favorable à Candice, mais on ne sait pas trop vraiment pourquoi. On n'a pas envie de la trouver détestable, mais on se doute qu'il y a quand même des trucs qui ont peut-être été un peu limites. Enfin bon, c'est un peu flou. Du coup, c'est difficile de se positionner, d'avoir un vrai avis intelligible, entre guillemets.
Après, je serais tenté de dire que c'est toujours une convention narrative, c'est-à-dire je vais sortir un exemple de Survivor sans vous dire la saison ni les individus en particulier pour ceux qui regardent. Mais dans Survivor, au fait, on a eu une saison où il y avait une candidate qui se faisait martyriser par toute sa tribu tout le long de la saison, sans qu'on sache pourquoi. Et disons que dans les interviews après la saison, on s'est rendu compte que la candidate en question a tenu des propos antisémites alors qu'il y avait un candidat juif dans la tribu qui était très apprécié. Et que du coup, c'était ça qui avait mené à son exclusion.
Donc, t'es en train de dire que Candice est okay,
non, mais disons que c'est tout à fait possible qu'il y ait un incident qui ait été occulté, ou bien tout simplement que soit juste le fait qu'elle soit beaucoup, beaucoup trop solitaire. Et je pense plus à cette deuxième option là, vu que j'ai. Voilà, après, j'en sais pas plus que tout le monde, mais j'ai quand même pas l'impression que Candice soit la reine des connasses. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle avait tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup trop s'isoler. C'est un jeu social, quoi.
Solitaire, j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression qu'elle est très maladroite et qu'elle a pas vraiment les codes de social qui fait qu'elle essaye de s'imposer un petit peu, mais sans vraiment vouloir s'imposer non plus, et que du coup ça la met dans une situation un peu entre le cul entre deux chaises, et qui fait que l'équipe s'agace assez vite parce qu'il y a cette maladresse tout le temps, ce qui peut être un peu fatigant au quotidien. Ça,
c'est ça le truc, c'est que on n'est pas sur l'île. Eux, ils se tapent des conditions de survie pas possibles. D'ailleurs, c'est très bien qu'ils l'aient montré à cause de ça, vu que quand on ignore un petit peu les conditions de survie, il y a des moments où on se dit pourquoi ils n'ont pas fait ça, ça, ça et ça. C'est l'air tellement évident. Oui, c'est l'air tellement évident quand t'as l'estomac plein, quoi. Mais disons que le fait que les moindres problèmes de comportement puissent être exacerbés complètement par les conditions de survie, en effet, peut-être que, comme tu le dis, c'est peut-être plus une question de maladresse qu'une question de qu'une question d'ignorance. Après, voilà, c'est, j'ai vu pas mal de monde dire que Candice, en fait, c'est typiquement la candidate qui a fait très attention au sport, qui a fait très attention à la survie, mais qui a complètement oublié qu'il y avait un aspect social dans le jeu. Et disons que là, le montage lui est favorable parce que je pense que ça sert une trame plus globale, mais je pense vraiment que si jamais elle se retrouve à revenir dans l'émission, il faut vraiment, vraiment qu'elle prenne en considération cette leçon-là.
Et puis aussi, voilà, c'est... je crois qu'on l'avait dit dans des précédents épisodes, mais c'est que Candice est instructrice de survie, qu'elle a l'habitude d'être un peu au centre de l'attention et qu'elle s'est dit que ses compétences, qu'elle aurait les mêmes compétences un petit peu que certains grands aventuriers, et que du coup, ça lui suffirait à lui octroyer une place dans l'équipe, d'être un petit peu la pourvoyeuse, sauf que elle est tombée dans une équipe rouge qui savait quand même pas mal faire de choses, et une fois en fait qu'elle s'est rendue compte que du coup que ses compétences ne lui seraient pas forcément d'une certaine aide, bah du coup elle savait plus sur quel pied danser. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça aussi.
Ouais. Non, je pense qu'effectivement elle voulait être au centre de l'attention, elle l'était pas tout à fait, et du coup elle s'est sentie un peu à l'écart, et ça a été de plus en plus ça jusqu'à son éviction, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, ouais.
Mais d'ailleurs, Jade, je crois que vendredi, donc quand on commentait l'épisode sur le Discord autour du feu, t'avais dit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que autant sur les premières saisons, être un crack en survie, ça pouvait te garantir, je dirais, une avancée quasiment certaine, mais les candidats sont de plus en plus affûtés, et du coup, en fait, c'est une compétence qu'il faut avoir, mais c'est pas une compétence qui va faire la différence.
C'est totalement ça, c'est-à-dire que lors des premières saisons, survivre, c'était vraiment compliqué. En témoigne d'ailleurs, on a eu beaucoup d'abandons médicaux, on en a toujours aujourd'hui, mais c'est plus pour des raisons sportives sur des épreuves lors des premiers jours. C'est pas une question de survie sur le long terme, mais lors des premières saisons, la survie, c'était vraiment quelque chose de très compliqué et les gens étaient généralement très peu préparés. On avait très peu de gens qui, avant d'aller à Koh-Lanta, faisaient des stages de survie, apprenaient à faire le feu. Maintenant, à force de regarder les saisons, les gens peuvent savoir qu'on va à Koh-Lanta. Il y a certaines compétences qui sont plutôt cool à connaître. Je pense notamment à Hervé qui, dans son portrait, prépare le feu, s'entraîne à faire des radeaux. Parce que voilà, à force de regarder l'émission, à force de connaître Koh-Lanta, on sait se préparer. Et c'est là-dessus que, lors des premières saisons, un candidat qui savait peut-être faire le feu, qui était une grande aide en survie, qui allait savoir pêcher, c'était un candidat qui allait fortement avoir une grande importance dans la tribu. Parce que Koh-Lanta, c'est un jeu social et dans une société, il faut vivre en société. Et comme on est dans une petite tribu, forcément, la personne qui va ramener à manger, qui va permettre à l'équipe de vivre, c'est quelqu'un qui va avoir une bonne place sociale. Mais quand on a une équipe qui est très préparée, une équipe qui est capable de justement survivre, ce talent en quelque sorte est de moins en moins indispensable, il reste important, quelqu'un qui sait l'utiliser à bon escient, c'est quelqu'un qui va s'assurer une bonne place. Mais pour le coup, je trouve que les compétences en survie de Candice n'ont pas pu pallier son manque de social.
Cet épisode aussi nous a permis de voir des personnages qui étaient quand même assez invisibles jusque-là. Et pour cette épreuve, le personnage jaune qu'on voit le plus, c'est Flavio, qui gère donc un centre de loisirs et qu'on pouvait prendre pour un candidat un peu social, mais qui n'avait pas eu beaucoup de confessionnaux jusqu'ici. Et cette épreuve, c'était l'épreuve des élastiques, qui avait l'air d'être beaucoup moins physique que celle qu'on avait vue dans les précédentes saisons. Et ensuite, il devait prendre des massues pour pouvoir casser des cibles en terre cuite. Et à ce jeu-là, c'est Flavio qui a permis de faire gagner l'épreuve. Alors, pour parler de l'épreuve, c'est une tendance qu'on observe depuis le début de la saison, c'est que ALP décide de faire des épreuves qui sont des mix. En général, c'est deux épreuves, on va dire, un peu classiques qui sont mixées ensemble. Est-ce que vous, c'est une configuration qui vous plaît, tout simplement?
Ça dépend des épreuves. Là, pour le coup, je trouvais ça plutôt OK. Après, de manière générale, on a quand même un peu l'impression que c'est essayer de faire du neuf avec du vieux. Voilà, on mélange deux épreuves et « Oh, regardez, une toute nouvelle épreuve inédite !» Oui, bon, OK. Finalement, on l'a déjà un peu vu sans la voir. Après, en soi... En tout cas, pour celle-là, moi, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Effectivement, on perd un petit peu en le côté épique de la corde, qui est d'habitude beaucoup plus impressionnant, j'ai l'impression, et beaucoup plus physique aussi, même si là, je pense qu'ils ont quand même bien souffert. Mais là, la grosse priorité, c'était évidemment le tireur. C'est lui qui menait un peu la danse. Donc, c'est un aspect un peu différent des épreuves de d'habitude. Mais en soi, pourquoi pas, ça renouvelle un petit peu les épreuves et on était un peu les premiers à s'en plaindre les saisons passées, même si ça va mieux depuis 2-3 ans. Mais moi, ça me dérange pas. Après, il faut pas non plus trop tirer sur la corde sans mauvais jeu de mots.
Ouais, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a pas mal d'épreuves où en quelque sorte, on a un champion par équipe. C'est-à-dire qu'on a eu, lors de l'épisode précédent, on a eu Aurélien contre Gabin. Là, on a eu Jonathan contre Flavio. Et l'épreuve qui suit, on a aussi eu Shanice contre Maxine. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'épreuves où on va avoir quelqu'un qui est mis en avant. Et du coup, c'est quelque chose, moi, personnellement, que j'aime un peu moins. J'aime bien les épreuves où on a vraiment une coopération d'équipe qui est plus mise en avant. Mais pour le coup, moi, j'ai trouvé ça cool parce que ça permet en fait de mettre en avant deux personnages qu'on avait moins vus, Flavio lors du confort et Shanice lors de l'épreuve d'immunité. Et voilà, pour le coup, Flavio, on a découvert vraiment sa participation à l'épisode d'aujourd'hui, alors que lors des trois premiers épisodes, voilà, on ne savait pas c'était qui Flavio, quoi, clairement.
Alors, c'est très intéressant ce que vient de remarquer Jade, concernant le fait qu'on mette souvent deux champions en confrontation, et puis c'est vrai que ça me fait penser que, mine de rien, je me demande si c'est pas un peu un moyen de surfer sur le fait que, bon, je sais que ça va paraître un peu méprisant, mais c'est que j'ai l'impression que si on va sur les réseaux sociaux de TF1 et même en général à propos de Koh-Lanta, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à confondre Koh-Lanta avec les Jeux Olympiques, surtout depuis le confinement. C'est-à-dire que pendant le confinement, on a quand même pendant le premier confinement, donc celui de l'an dernier, on a quand même eu une suspension d'à peu près tous les sports. Et disons que du coup, il y a pas mal de gens qui sont des passionnés de sport qui se sont rabattus sur Koh-Lanta en ayant un petit peu l'image, le mérite, épreuve et tout. Et disons que j'ai quand même l'impression que cette tendance de gens-là ont quand même eu un effet de pousser un petit peu un discours dominant en faveur des candidats qui sont forts sportivement, mais qui ont des carences dans le reste du jeu. Et par exemple, je me souviens de l'énorme vague de sympathie envers Dorian l'an dernier, alors que le problème, c'est que dans le montage, vu que je suis sûr qu'en vrai, il est génial, mais dans le montage, tout ce qu'on nous montrait, c'est qu'il courait vite, quoi. Donc... Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression que la prod est peut-être un petit peu en train de se laisser un petit peu influencer par cette perception-là des fans. Du coup, je pense qu'il y a peut-être de ça derrière le fait que la première saison qu'il y a de tournée après cet influx de fans du confinement, on a cette perception de duel entre héros.
Donc grâce à Flavio, les jeunes remportent le confort, ils remportent enfin le feu. Donc avec deux allumettes pour faire un petit peu de drama. Et aussi le kit de pêche, je crois, oui, c'est ça, il remporte le kit de pêche. Et on commence à voir donc déjà Vincent qui essaye de faire le feu et qui n'y arrive pas, donc c'est finalement Mathieu qui le fait, alors qu'on se dit c'est un candidat plutôt impulsif, donc on pouvait se dire que peut-être ça allait être un risque, mais au final, bon, il l'a fait. Et ensuite, on voit que Aurélien n'est plus trop en odeur de sainteté dans son équipe, puisqu'il commence à agacer un petit peu les gens. Par rapport à l'arc narratif d'Aurélien, c'est-à-dire que lors des précédents épisodes, on le voyait vraiment comme le chef incontesté des jaunes. Lorsqu'il était parti lors du dernier épisode, les jaunes étaient tout perdus. Et là, commencent à apparaître les premières petites tensions. Est-ce que vous, ça vous surprend et qu'est-ce que ça veut dire pour vous de la suite de l'aventure pour Aurélien et pour les jaunes?
Alors, pardon, mon micro était à l'ouvert. Concernant Aurélien, ça donne quand même un peu l'impression d'un arc, où on montre d'abord comment il est devenu l'emblème de l'équipe jaune avant de montrer sa chute. C'est-à-dire que là, j'ai du mal à voir quel intérêt aurait cette scène-là si jamais c'est pour pas montrer le fait qu'il y ait une chute. Après, est-ce que c'est une chute définitive ou bien est-ce que c'est une remise en question? Bon, on sait que dans Koh-Lanta, c'est plus souvent des chutes définitives, mais on sait que les monteurs peuvent parfois nous surprendre. Ceci étant dit, c'est... disons un petit peu la malédiction du chef dans Koh-Lanta, c'est-à-dire que toutes les saisons nous rappellent oui, il faut un chef, mais en fait dans la vie quotidienne on se rend vite compte que quand on se retrouve sur le camp en permanence, qu'on a faim, qu'on est la moindre frustration, ça peut faire partir en toupie. Donc quelqu'un qui prend un rôle de chef en manquant de diplomatie, il est assuré de se mettre en première ligne. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que si jamais un futur candidat nous écoute, le rôle de chef, faites attention, faites très 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 attention. Là, pour le coup, voilà, c'est que le chef, c'est un rôle qui est trop exposé. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose qui va mal, c'est tout pour ta gueule.
Oui, je suis assez d'accord. Il y a eu, depuis quelques épisodes même, des petits cailloux semés qui nous font comprendre que ça peut potentiellement être un peu plus compliqué pour Aurélien que prévu. Je pense notamment à la séquence où il a failli, enfin où il avait vu le médecin, où on sentait qu'il était très très faible, très très affaibli et que sa place était en danger. Je pense que c'est ça non plus pas anodin de nous l'avoir montré, parce que à mon avis, il y a des candidats qui ont des coups de moins bien sans qu'on soit forcément averti. Là, le fait qu'on axe un peu dessus, alors certes c'est le capitaine donc c'est important, mais je pense que c'est aussi peut-être un signe effectivement d'une sorte de déclin. Je ne sais pas s'il va être médévac ou si ça va passer par le jeu, mais c'est un petit signe là aussi. Après, pareil, sur cet épisode, je suis d'accord avec Gino, le fait qu'on nous le montre un peu affaibli, mais d'une autre façon, c'est un petit signe. Donc, à voir, est-ce que ça va être dans son équipe? Je pense pas, parce que même s'il est un peu agaçant, ils en ont quand même besoin. Il y a beaucoup de personnalités, mais il y a beaucoup de... Comment dire ça gentiment? Il n'y a pas beaucoup de personnes aussi lucides qu'Aurélien, je pense, en termes de jeu, en termes de préparation mentale, en termes de même d'investissement. Ils sont tous plutôt investis, mais ils ne sont pas tous aussi futés qu'Aurélien, on va dire. Donc je pense qu'ils en ont besoin, donc je ne le vois pas partir immédiatement, mais peut-être que ça peut être un prémisse de difficulté sur, par exemple, les ambassadeurs ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr qu'Aurélien soit la priorité de beaucoup de monde chez les jaunes, donc à voir comment ça va évoluer, mais c'est un peu dommage qu'il n'arrive pas à prendre du recul sur ce positionnement-là. Il n'a pas une équipe facile pour ça, honnêtement, hein, il n'est pas gâté. Mais bon, ça devrait aussi faire partie de ses qualités d'essayer de lever un peu le pied et peut-être de donner le relais comme il l'a fait sur les épreuves. Il l'a plutôt bien fait. Voilà, le fait de valoriser d'autres joueurs, etc., c'est très intéressant. Je pense qu'il devrait faire un peu pareil sur le camp parce que là, effectivement, ça commence un peu à puer pour lui. Ouais.
Pour moi, Aurélien, il a commencé le jeu en se rendant compte que dans les premiers jours, c'était l'un des seuls qui était prêt à step up. C'était l'un des seuls qui était prêt à prendre ses responsabilités et du coup, il s'est mis dans ce rôle-là. Et en fait, à force, chaque jour, c'est limite le seul à prendre ses responsabilités. Donc forcément, je pense que de son côté, ça l'a beaucoup agacé et ça le rend forcément plus irritable, peut-être plus direct, beaucoup plus directif. Et c'est aussi quelque chose qui, socialement, n'est pas forcément top parce que ça agace les gens. Surtout qu'au début, pour le reste des candidats, je suppose qu'on veut plutôt se mettre en retrait. On ne veut pas s'afficher. Donc, on a tendance à laisser les personnes qui veulent se mettre en avant se mettre en avant. Mais... quand le jeu avance, on a envie en fait de vivre notre aventure, et je pense que c'est notamment le cas pour Shanice, de se faire reprendre à chaque fois qu'on prend une initiative, notamment aller ramasser les bouts de coco qui peuvent servir de combustible. On part chercher du bois, du combustible, en se disant ça va être utile au camp, et à chaque fois on se prend une remarque comme quoi non, c'est pas ce qu'il faut faire, etc. C'est très autoritaire, et moi je comprends totalement que ça peut agacer Shanice. Mais pour le coup, je rejoins aussi Freeze en disant que dans cette équipe jaune, je vois pas trop qui pourrait prendre ses responsabilités et être utile à cette équipe comme Aurélien l'est. Dans la réunification, c'est peut-être quelqu'un qui est moins utile. Donc attention Aurélien, pour moi, sa place, elle est vraiment pas assurée du tout à cause de ce comportement autoritaire. Et pour le coup, je pense aussi que c'est le début de la chute du roi Aurélien dans cette saison de Koh-Lanta.
Donc encore des scènes de survie donc entre ces deux épreuves. On a eu à la fois donc les rouges qui concoctent une nasse, on a les jaunes qui pêchent et Aurélien qui est tout fier d'être le premier à sortir un poisson. Et puis on a été cité plusieurs fois.
Bon, ce soir autour du feu.
Autour du feu.
Autour du feu.
Autour du feu.
Mais tu les as payés combien d'ailleurs pour le placement de produits?
3 crabes.
On en est, enfin là, il y avait une question assez intéressante qui a été posée aussi sur Internet et par certaines personnes sur ADF. C'est est-ce qu'il aurait mieux pas fallu pour Candice chez les rouges qu'elle soit chez les jaunes, parce que ça aurait fait un bon pendant à Aurélien. Elle aurait peut-être été beaucoup mieux dans cette, dans une position quand même beaucoup plus sympathique dans l'équipe jaune plutôt que dans l'équipe rouge.
Je suis pas convaincu. Je pense que ça aurait été à peu près la même chose quelle que soit l'équipe pour Candice.
Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, Candice, elle aurait beaucoup plus sa place dans l'équipe jaune parce que, justement, comme on l'avait dit, cette équipe rouge est préparée à la survie. Donc, Candice est moins utile dans cette équipe rouge alors qu'elle est plutôt utile dans cette équipe jaune. Comme on le voit avec Aurélien, Aurélien est limite indispensable sur le camp au jaune. Sinon, voilà, c'est n'importe quoi. On l'a vu d'ailleurs quand Aurélien était à l'infirmerie. Lors du troisième épisode, je crois, on avait une équipe jaune qui était à l'arrêt, elle ne fonctionnait pas. Donc clairement, pour moi, Candice aurait eu beaucoup plus sa place dans l'équipe jaune, et notamment aux côtés d'Aurélien, parce que je pense qu'Aurélien aurait pas mal apprécié le fait d'avoir une candidate qui t'y connaît, histoire d'avoir moins de responsabilités et justement de ne pas être ce chef ultime dans cette équipe jaune. Pour moi, ça aurait été bénéfique aux deux. Est-ce que ça aurait été suffisant pour Candice? Pas sûr, parce qu'effectivement, son jeu social, il n'est pas top. S'il n'est pas top chez les rouges, il n'est potentiellement pas top non plus chez les jaunes. Mais pour le coup, je pense qu'elle aurait été quand même été mieux dans son rôle dans l'équipe jaune.
Et je te rejoins plutôt là, Jade, c'est que en fait, le problème de Candice, c'est pas qu'elle manquait de liens, c'est qu'elle n'en avait vraiment aucun. C'est-à-dire que les seuls liens qu'elle pensait avoir, c'était avec les filles. On avait bien vu plus tard, on en reparlera, que ça s'est pas très bien passé. Là, on peut penser qu'avec Aurélien, qui est un petit peu, j'ai pas envie de le dire, vu que c'est un peu méchant, mais on a l'impression qu'Aurélien, c'était la seule personne qui a un QI à 3 chiffres sur le camp, quoi. C'est-à-dire que, en réalité, je suis sûr que les jaunes sont très intelligents, mais disons que, voilà, le montage leur rend pas hommage, on va dire. Mais disons que, voilà, on va dire que parfois ils donnaient l'impression d'être le seul homme raisonnable sur le camp. Je voudrais plutôt dire ça. Et le problème, c'est que, voilà, si jamais il y avait eu une Candice à côté de lui, je pense qu'Aurélien l'aurait très apprécié et qu'au moins il y aurait eu un lien entre ces deux-là. Et puis de ces liens, tu peux en faire bourgeonner d'autres.
Je vous rejoins sur le lien Aurélien-Candice, mais vous oubliez un peu tous les autres débiles de l'équipe. Et je pense qu'une Candice qui s'expose et qui donne des leçons comme le fait Aurélien, ça aurait eu exactement le même impact que ce que Aurélien est en train de faire. C'est-à-dire quelque chose, au final, qui va leur apporter beaucoup, mais qui va les agacer beaucoup. Parce que ils vont être un peu vexés, ils vont être un peu agacés, ils vont être machin. Et je pense que ça aurait juste décuplé ce truc-là, peut-être mis un peu sur deux personnes, donc un peu différent. Mais autant le lien Aurélien-Candice, on le voit, et effectivement, je pense que ça aurait pu marcher, autant je pense que la mécanique aurait été la même pour tous les autres joueurs.
Voilà, on le dit, ça sera sans doute pas suffisant, mais voilà, comme Gino l'avait dit, un lien, c'est mieux que zéro. Clairement, pour le coup, Candice aurait forcément été mieux dans l'équipe jaune que dans l'équipe.
Le seul lien qu'avait Candice, c'est celui qui le fait sortir. Donc, zéro lien, ça peut être mieux que un.
Ensuite, on passe à l'épreuve d'immunité. Et l'épreuve d'immunité, c'est une épreuve qu'on avait déjà vue dans plusieurs Koh-Lanta et aussi dans Survivor, qui est l'épreuve avec des plateformes que des candidats doivent bouger avec un candidat en haut qui doit marcher tout simplement sur les plateformes pour arriver à un but. Et là, même si les rouges choisissent Maxine, qui est une ancienne gymnaste de haut niveau, on se dit qu'au niveau équilibre, ça va le faire. Eh bien, chez les jaunes, là, c'est pas Flavio, c'est Shani, c'est la discrète Shani, mais la très sociable, qui remporte cette épreuve. Et ça aussi, je voulais avoir une réflexion avec vous. C'est-à-dire que c'est une épreuve donc aux États-Unis qui avait déjà été faite, et c'était une épreuve qui avait été hackée par les candidats, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on avait une candidate qui s'était recroquevillée sur une des plateformes, avec tous les autres candidats qui avançaient jusqu'au but. Est-ce que, et ça me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire que les hacks sur les épreuves, c'est quelque chose qui est très apprécié dans Survivor, mais qu'on voit très très peu dans Koh-Lanta. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt la prod qui va empêcher ça de quelque manière que ce soit, ou que ce sont les candidats qui tout simplement n'y pensent pas? Le premier qui prend la parole.
Pour moi, c'est la prod, clairement. On l'a vu là sur l'épreuve, quand Maxine est plus ou moins tombée. Dès qu'elle a touché avec la main une des trucs, je crois que Denis est intervenu pour dire « Oh là là, non, c'est interdit, vous repartez » ou quelque chose comme ça. Je pense que la prod est beaucoup plus interventionniste que celle des États-Unis et qu'il faut que ça soit mérité, on y revient, il faut que ça soit sportif, il faut que ça soit dans des bonnes conditions, etc. Et pour eux, tout détournement de l'épreuve équivaut à un manque de fair-play, un manque de machin. On peut le déplorer parce que des fois, ça crée des situations vraiment, vraiment très intéressantes. Et puis, c'est aussi du mérite que de détourner une épreuve pour arriver à en tirer un peu quelque chose. Mais honnêtement, vu la mentalité de la production TF1, etc., je pense que c'est clairement beaucoup trop cadré et que ça laisse peu de place à l'improvisation.
Après, il faut aussi penser au rendu télévisuel, c'est-à-dire que les hacks en soi, ça peut mener à des situations très drôles ou bien à des moments où on se dit putain, le mec est brillant. Mais niveau télévisuel, je pense que ça peut quand même être assez frustrant. Je veux dire, là, je vais pas parler de télé, mais je vais parler d'un ORG. Donc, c'est un jeu qui simule un petit peu les jeux tels que Koh-Lanta ou Survivor en ligne. C'est que je me suis retrouvé à gérer un de ces jeux et on a fait une épreuve qui a été totalement hack par les candidats. Et résultat, pour les spectateurs qu'on a, vu qu'on a des spectateurs sur ces jeux-là, bah, ils se sont fait chier, il faut être honnête. C'est-à-dire, ils ont vu les candidats négocier le résultat de l'épreuve à l'avance, quoi. Donc là, j'imagine que, comme Koh-Lanta, non seulement il y a une part importante donnée au dépassement de soi, et en plus, il y a la volonté de satisfaire ce nouveau public qu'ils ont eu pendant le premier confinement, Alors, niveau télévisuel, je ne sais pas si ça aurait été très apprécié de voir ce qui s'est passé dans Survivor. Quoi. Voilà, c'est qu'au bout d'un moment, la production, elle réalise un produit télévisuel, il faut prendre ça en compte. Et je pense que ça n'aurait pas été
conforme. Oui, c'est ça. C'est le formatage. Quoi. Le formatage.
Pour le coup, même dans Survivor, il y a certaines épreuves qui ont été hackées et que depuis, on n'a plus jamais revu à Survivor. Je pense notamment à l'épreuve des enchères. On a eu notamment une situation dans une saison où une candidate qui, connaissant les règles de l'épreuve, a permis en fait à tout le monde de récupérer un objet sans qu'il y ait ces tensions qui sont généralement créées lors de cette épreuve. Et lors d'une autre épreuve, dans une saison qui avait eu lieu juste avant, on a aussi une épreuve qui, en gros, c'est des sujets sensibles. Il faut répondre à une question qui porte sur un candidat. Et généralement, ça cause des tensions parce qu'il faut éliminer un candidat en lui enlevant une vie dans l'épreuve. Encore une fois, il y a eu des candidats qui étaient dans la même alliance, qui se sont mis d'accord, et l'animateur était fou de rage. Donc clairement, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement dans Koh-Lanta, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans la version américaine. Et je pense que pour le coup, il y a beaucoup de hacks, en quelque sorte, qui à la télé ne rendent pas bien, et qui pour le coup sont totalement interdits, de manière à ce que l'épreuve soit épique, soit intéressante à regarder. Pour le coup, je trouve quand même que bouger sa plateforme dans l'eau, c'est quelque chose qui est assez drôle et qui, pour le coup, est bien rendu à la télé. Après, est-ce que les gens y ont pensé ? Est-ce que c'est permis dans les règles ? Pas sûr.
Alors, donc si, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose un petit peu sur cette épreuve ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, que vous voudriez aborder ?
Alors, juste une chose sur l'épreuve, donc en dehors de la thématique que tu avais établie pour la question du hack. Mais il y a une chose que j'aimerais noter sur l'épreuve, vu que j'ai un peu traîné sur les réseaux sociaux, malgré le mal que je peux en dire, et j'ai vu que beaucoup de monde avait conspué Maxine pour sa prestation. Et là, je voudrais juste lui rendre un petit peu hommage, c'est que, non, c'est les rouges qui ont tenu les plateformes n'importe comment. C'est-à-dire, il n'y a plus d'un passage où c'est miraculeux qui reste debout. C'est vraiment pas sa faute si jamais l'épreuve a été paumée. C'est là qu'on voit un petit peu le problème de la dimension héros contre héros, c'est que on finit par occulter le rôle de l'équipe qui reste réel. Et là, pour le coup, même s'il ne faut pas retirer à Shani ce qu'elle a fait, le vrai problème, c'est les rouges qui ont tenu les plateformes n'importe comment, c'est pas Maxine.
Candice, donc les rouges qui doivent aller au conseil, donc le but évident, c'est Candice. Et Candice qui, pendant tout l'épisode, a cherché un cognier et finit par le trouver, enfin, donc sous un rocher vraiment au bout du bout d'un îlot. Et là, elle fait une stratégie qui peut sembler maligne au premier abord, mais qui ne prendrait pas en compte, en gros, l'absence de liens sociaux qu'elle avait avec les gens de son équipe. La première chose qu'elle fait, c'est en parler à Laure et Maxine. Alors, est-ce que c'était pour vous bon ? On a vu, la fin de l'épisode a montré que ce n'était pas un bon move, mais est-ce que vous comprenez un petit peu ses raisons, ou est-ce qu'au contraire, elle aurait dû vraiment garder ça pour elle et puis le jouer au conseil au tout dernier moment ?
Alors, honnêtement, j'ai vu tout le monde dire que c'était un coup désastreux, à commencer par des anciens candidats qu'on adore, tels que Cédric et Ahmad. Et non, je fais pas du tout de la lèche, je les adore vraiment. Mais je pense que pour ce coup-ci, si elle gardait le collier pour elle-même, elle serait passée du statut de 4e éliminée de la saison au statut de 5e éliminée de la saison. C'est qu'elle avait vraiment, vraiment aucune autre perspective que de tenter quelque chose. Et pour tenter quelque chose, il faut des alliés. Et disons qu'elle a choisi les personnes qui lui semblaient les plus proches. Bon, malheureusement pour elle, on va dire qu'elle a commis une grosse erreur de jugement. Mais disons qu'en soi, c'était intéressant d'essayer de tisser des liens à partir du collier, vu que à partir du collier, si jamais tout s'était passé comme prévu, elle, Laure et Maxine auraient pu réussir à faire tomber quelqu'un qui est dominant chez les hommes. Elle serait retrouvée plus ou moins à 3 contre 5 en supposant que Magali soit avec les hommes. Suffit de faire flipper une personne et c'est bon. Donc là-dessus, en soi, parler du collier, c'était la bonne idée. Le vrai problème, c'est pas qu'elle ait parlé du collier, c'est tout ce qui s'est passé après. C'est déjà qu'elle ait accepté de diriger les votes vers Magali alors que ça aurait été vraiment une opération en blanc, même si ça avait marché. Ensuite, qu'elle se soit laissée manipuler par le très mauvais jeu d'acteur de Maxine et de Gabin. Donc vraiment, après, voilà, tout le reste, c'est une disaster class. Mais disons que, contrairement à ce que j'ai entendu, non, l'idée de « il faut jamais parler de son collier », non, c'est pas une règle d'exclusion. Je veux dire, Estelle, l'an dernier, elle a pas parlé de son collier, elle en a profité un épisode et basta. Là, je pense vraiment que ça aurait été la même configuration si elle n'en avait pas parlé. Après, voilà, elle a été très naïve sur la suite, donc je vais pas aller dire que c'est une grande joueuse stratégique qui a été mésestimée à cause d'un coup qui a été un peu malheureux, mais vraiment, c'était la chose à faire d'aller en parler avec quelqu'un. Après, malheureusement, elle a pas fait le bon choix de personne. Derrière, elle s'est complètement laissée embobiner, mais voilà, c'est quelque chose qui ne me choque pas autant que la majorité.
Moi, je suis totalement d'accord avec Gino pour le coup. On a vu tout le monde dire « un collier, tu n'en parles pas, un collier, tu le joues ». Et moi, perso, je déteste ces leçons de morale en mode « il y a une utilisation unique d'un collier et si tu ne fais pas comme ça, bah, ça ne marche pas ». Je ne suis absolument pas d'accord. Comme l'a dit Gino, il y a plusieurs utilisations possibles d'un collier. D'ailleurs, il y a un podcast autour du feu qui revient là-dessus. Je pense que c'est soit Gino, soit Juju qui en avait parlé et c'était juste excellent à entendre. Toutes les utilisations possibles d'un collier. Et encore une fois, l'utilisation d'un collier dépend de la situation. C'est-à-dire que selon tes liens sociaux, selon ta position dans la tribu, selon ta chance d'être sorti, tu peux jouer un collier d'une manière ou d'une autre. Tu peux jouer un collier sur toi, tu peux le jouer sur une autre personne, tu peux en parler, tu peux l'utiliser comme moyen de dissuasion. Et là-dessus, on va reparler d'une candidate excellente, Cindy de la saison Guerre des Chefs, qui en avait parlé. Et comme elle en avait parlé, elle a évité l'élimination lors de Binôme, elle est allée au bout sans avoir à jouer son collier avant le dernier conseil. Donc nous, un collier, on peut en parler. Tout cela dépend de ta position dans la tribu. Pour le coup, si tu es vraiment quelqu'un qui n'a aucun lien social, ça peut être intéressant pour en créer. Après, si c'est vraiment le néant, je pense que ça a été le cas, bah ça suffit pas. Et pour le coup, si j'étais Candy, je pense que j'en aurais parlé, mais je l'aurais joué dans tous les cas pour forcer un coup et pour éliminer quelqu'un et potentiellement monter en grade, même si de toute façon, vu ses liens sociaux, je pense que dans tous les cas, c'était cuit pour elle au prochain conseil. Mais pour le coup, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise utilisation claire et nette du collier dans ce cas-là, tant que le collier est utilisé, effectivement.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Je trouve qu'effectivement, le fait d'en parler n'est pas en soi une mauvaise idée a priori. En tout cas dans sa situation à elle, effectivement chaque situation est très très différente, donc là on va parler de celle-là uniquement, mais elle était tellement isolée, tellement à l'écart que je pense qu'elle n'avait pas beaucoup d'autre choix que d'en parler à d'autres joueurs pour essayer d'en tirer profit. Le problème n'est pas tant là-dedans, c'est surtout dans la suite, elle a vu vraiment à très très court terme, et le fait d'en parler à Maxine et Laure, ça peut être intéressant, mais il faut proposer un petit peu plus, il faut aller encore au-delà, il faut proposer un plan B. Là, c'était vraiment juste « j'ai un collier, s'il vous plaît, sauvez-moi ». Bon, alors effectivement, ça n'a pas marché, ça aurait pu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien derrière. Elle ne voit pas plus loin. Elle ne se dit pas « est-ce que je ne peux pas me servir de ce collier, non seulement pour me sauver, mais aussi pour essayer de renverser un peu la tendance et de sortir quelqu'un qui ne marchera jamais avec moi et avec laquelle, après, j'aurai peut-être plus de portes ». Et c'est ça qui est dommage, parce que je ne suis pas sûr que ça soit non plus une très bonne décision de la part de Maxine et de Laure. Parce que certes, elles sortent Candice et son collier, ça c'est très bien joué, mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Est-ce qu'elles n'auraient pas eu plus intérêt à jouer avec ce collier-là, avec cette offrande quasiment qui a été faite par Candice, pour essayer de renverser la tendance ? Parce que là, on a quand même tendance à se dire, bah, potentiellement, Maxine et Laure, ça peut être les prochaines. Donc, pour moi, c'est pas très bien joué si on considère vraiment l'aventure, au moins jusqu'à la réunification. Après, effectivement, du point de vue de Candice, je ne sais pas si elle avait beaucoup, beaucoup d'options, donc c'est dommage pour elle. Je pense qu'elle va s'en vouloir beaucoup sur toute sa naïveté. Mais en soi, je suis d'accord, ce n'est pas forcément une mauvaise décision de base. Après, ça l'est devenu par la suite, mais ça, c'est une autre chose.
Alors, et surtout, je pense que d'un point de vue vraiment émotionnel, c'est qu'on sentait que Candice avait besoin justement de liens et qu'elle a voulu peut-être recréer un lien avec ce collier, justement, pour pouvoir forcer un petit peu un lien. Et je pense que c'est aussi ça qui a un petit peu troublé un peu, je dirais, les spectateurs, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui était aux abois et qui cherchait justement à créer du lien pour pouvoir, certes, avancer, mais qui a cherché vraiment à faire confiance. Et du coup, c'est vrai que je dirais que les manipulations de Laure et de Maxine ne sont absolument pas passées.
Et... ouais, mais parce que ça donnait vraiment l'impression que Candice venait de se faire deux copines, quoi. Il y avait un côté presque enfantin, en mode « Ah, ça y est, je suis enfin accepté à la récré ». Bon, mais sauf que c'est Koh-Lanta, c'est un jeu où il y a un petit peu plus de complexité que ça, et c'est violent, hein, ça peut l'être. Je pense que ça l'a été pour elle, ça l'a été pour plein de spectateurs. Nous, on est un peu plus aguerris, on a vu des situations encore plus délicates que ça, donc ça nous choque pas, même si c'est humainement difficile. Mais il faut pas non plus s'étonner de ça. Ça reste un jeu, ça reste un move de la part des deux filles qui est plutôt compréhensible aussi. Donc ça, c'est un peu dur, c'est sûr, parce qu'il y avait une grande naïveté de la part de Candice. Mais en soi, c'est aussi ça qu'on a envie de voir, quoi.
Alors pour Laure et Maxine, c'est quand même voilà, c'est très beaucoup. Et elles ont inclus avec elles Gabin. Et vous l'avez dit, mais Gabin qui ne sait absolument pas mentir, mais comment elle a fait pour ne pas capter ? Parce que Gabin, c'est un très mauvais menteur. Et on voit même dans sa justification, c'est c'est parce que en fait, en épreuve, t'es la moins forte. Et d'avoir Gabin, moi, voilà, on le voit très peu, mais on commence à comprendre pourquoi. Parce que il a des muscles et puis c'est tout. C'est qu'il a vraiment peu de personnalité, enfin peu de personnalité montrée à l'écran. Et là, justement, sur ce move-là où il suit les filles, il a l'air quand même d'être. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il comprend vraiment ce qui se passe et qu'il se contente de suivre, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous aussi, de Gabin. Je pense que vous serez peut-être un petit peu d'accord, mais. Waouh, putain, ça m'a choqué de voir ça. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah, pour l'instant, ouais, il est très très fade. Autant il peut être impressionnant dans les épreuves, autant sur le camp, on le voit pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le montage qui le décide ou est-ce que c'est parce qu'il a vraiment rien à dire ? Je pense que c'est plutôt la seconde option, honnêtement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ira pas loin, voire même qu'il n'ira pas en finale. Mais effectivement, c'est pas un personnage passionnant. Ça ne l'est tellement pas que là, sur les réseaux sociaux, on a bien vu que les deux seuls qui étaient un peu mises à mal, c'était Maxine et Laure, alors qu'effectivement, Gabin est une part tout aussi importante du plan, même si ce n'est pas le sien. Mais voilà, il est tellement valeureux, méritant et beau gosse, certainement, ça doit jouer. Et puis c'est un homme, ça joue aussi. Qu'il a été complètement épargné, alors que oui, il est partie prenante du plan. Mais à voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est pas folichon, Gabin.
Perso, que pour tous ceux qui suivent sur le channel Koh-Lanta du serveur Autour du Feu, on fait un classement des candidats après chaque épisode. Et à chaque épisode, le candidat qui est en bas de ma liste, perso, c'est Gabin. C'est le candidat de la saison que je ne supporte pas trop. Autant Chris n'aime pas trop Hervé. Pour moi, c'est vraiment Gabin, parce que Gabin n'offre vraiment rien à l'écran, mais vraiment rien du tout. C'est-à-dire que même dans un épisode où il va mentir, on n'a pas un seul confessionnal de Gabin. Sa justification de vote est vraiment nulle à chier. C'est un candidat qui, à l'écran, ne donne absolument rien. C'est une erreur de casting pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, lors des épreuves, va aller faire de belles performances, et ça suffit au grand public. On va aller faire un tour sur Twitter, on voit qu'il est très 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 apprécié, même sur Facebook, etc. Pour les gens qui regardent Koh-Lanta sans être passionnés, c'est quelqu'un qui justement fait le job, parce que comme Gino l'avait dit, les gens se mettent à Koh-Lanta parce qu'il n'y avait pas de sport, et du coup on cherche cet aspect-là, et Gabin, qui a fait une très belle performance à l'épreuve précédente, c'est quelqu'un qui va justement avoir une popularité que je ne comprends absolument pas, parce que à l'écran il n'est pas intéressant, il n'est pas drôle. Dans l'équipe rouge, on peut parler d'Arnaud, qui pour le coup, je trouve que c'est quelqu'un qui à l'écran rend très bien, mais Gabin, je comprends vraiment pas.
Oui, j'ai pas grand chose à dire sur Gabin, vu que honnêtement, sur cette manœuvre de Maxine et Laure, pour le coup, pour moi, c'est un petit peu une non-entité. C'est-à-dire, pour moi, il a juste voulu tenir sur la ligne majoritaire de la tribu. Donc, pour moi, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de parler de Gabin en rapport à cette manœuvre de Laure et Maxine. Pour moi, vraiment, les personnes importantes dans cette manœuvre, comme ça a été dit, c'est Laure et Maxine. Et d'ailleurs, je vais un tout petit peu disserter, mais pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure à leur sujet, c'est que... En effet, je peux comprendre le fait qu'il y ait des réactions un peu dures vis-à-vis de Laure, même si, il faut être honnête, elles sont complètement excessives. Koh-Lanta, ça reste un jeu, et ça doit rester un jeu. Mais après, oui, je peux comprendre, parce que c'est vrai que, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, c'est que le montage de Candice, ça servait à alimenter un plus grand dessin. Et disons qu'il y a quand même une bonne partie de ce dessin qui était d'atteindre une situation de paroxysme émotionnel sur le moment où Candice se fait éliminer. C'est-à-dire que si jamais on nous avait présenté un peu Candice comme une nana perchée un peu désagréable, je ne pense pas que l'intensité émotionnelle de sa sortie aurait été aussi grande. Et disons que voilà, là-dessus, TF1 et ALP, ils doivent travailler sur rendre l'épisode passionnant pour le public général. Et là-dessus, Et là-dessus, c'est réussi. Mais voilà, c'est que le fait qu'il y ait cette intensité dramatique, ça nous fait parfois un petit peu dévier du fait que Koh-Lanta reste un jeu. Ceci étant dit, autant on sent que Maxine avait pris conscience d'à quel point le coup était chaud, autant on en reparlera peut-être plus tard, mais ce qu'a dit Laure derrière, c'est complètement inutile. Et je pense vraiment que ça a un petit peu foutu le feu sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mais voilà, mais tout ça pour dire que vraiment tout le move, toute la manœuvre, c'est Maxine et Laure. Gabin, c'est une non-entité. Je t'avoue que je comprends même pas pourquoi tu as voulu qu'on en parle, Damien.
Non, bah parce que du coup, ça reste quand même un personnage. Donc, je veux dire, c'est qu'il y a une grande différence entre ce qui est montré à l'écran et sa popularité autour. Donc, c'est quoi ? Il est grand et puis il a des muscles. Voilà. Donc, en gros, ça se réduit à ça. Mais pour Laure et Maxine, justement, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment deux caractères quand même assez divers. C'est-à-dire que Maxine, de son côté, avait l'air un petit peu de faire quelque chose auquel elle n'était pas vraiment habituée et que pour lequel elle avait quand même quelques petites, je dirais, retenues morales. Et Laure, qui est vraiment tout en franchise et avec son aspect un petit peu bourrin, on va dire, très très brut de décoffrage, qui fait partie aussi visiblement de sa personnalité. Alors que elle, comme tu l'as dit, elle a fait un conseil. Enfin, elle a ce qu'elle a dit lors de la sortie de Candice. Tu te dis, wow, voilà, c'est vraiment de la franchise, c'est de l'honnêteté. Alors pourquoi pas? Mais ça pouvait, c'était quand même un peu abrupt pour la pauvre Candice, quoi. Donc vous, pareil, Maxine et Laure, est-ce que vous comprenez un petit peu genre leur façon de réagir, ou est-ce que vous pensez aussi comme Gino que le commentaire de Laure était complètement inutile lorsque Candice s'est fait éliminer?
Pour moi, c'est totalement inutile d'un côté. Et c'est totalement débile de l'autre, parce que, faut pas oublier, après voilà, je vais plus loin, mais comme dit, ça inclut les immunités. Jouer le bluff jusqu'au bout, ça serait peut-être intéressant pour elle, mais pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très abusé de la part de Laure, surtout que Candice était déjà choquée, limite en pleurs. Pour moi, c'était vraiment too much. C'était quelque chose qui n'avait pas lieu d'être et. Je pense que ça a fait beaucoup de mal à Candice, surtout sur le ton dont ça a été dit, en mode de, c'est totalement Candice la fautive, etc., sans remords. J'ai vraiment eu du mal pour Candice en voyant cette séquence. Après, ça ne justifie en rien les réactions sur les réseaux sociaux, évidemment.
Ça rentre un peu dans la logique de l'élimination, c'est-à-dire que visiblement, elle ne pouvait pas voir Candice et qu'elle ne comptait pas du tout sur elle, donc... Je pense que c'est un peu pour légitimiser, et c'est pas facile à dire, leur décision que de rester un peu sur cet axe-là. Ça me choque pas. Après, c'est peut-être pas très, comment dire, très humainement appréciable, même s'il faut faire attention avec ce genre de choses, car comme disait Gino, c'est un jeu. Mais effectivement, on sent quand même Candice très fragile, très enfantin, comme on disait tout à l'heure, donc c'était peut-être pas nécessaire, même si c'est cohérent. Je sais pas, je pense pas que ça va leur retomber dessus dans quelques situations que ce soit, puisque Candice était visiblement peu appréciée de tout le monde, donc je pense que tout le monde va plutôt aller dans le sens de Laure et de Maxine, donc pourquoi pas, mais c'était dispensable. C'est sûr que l'élimination avec le collier en plus, c'est déjà quelque chose d'assez dur, donc bon, peut-être qu'on aurait pu être un petit peu plus doux.
Bah du coup, après cette idée, moi je vous propose de qu'on fasse un jeu, hein, comme un peu comme le Kikadi l'an dernier, Freeze, mais voilà,
Est-ce qu'il y a un jingle?
Bah évidemment qu'il y a un jingle, Arnaud, Philippe
Corti. Alors je joue alors.
Mais c'est un jeu.
C'est pas du jeu, on joue plus.
Je pense que tout va se jouer demain.
Là, il n'y a plus de questions à se poser. La gagne.
Alors, est-ce que c'est Kikadi compatible, Freeze, ou tu préfères l'ancien?
Je préfère l'ancien, je ne vais pas vous mentir, mais il y a un potentiel, donc pourquoi pas.
Alors, du coup, première question, je vais vous poser trois questions, vous allez répondre.
Qui qu'a dit? Ah. Voilà, quand même, excusez-moi. Enfin, bon.
Alors du coup, première question, j'ai l'impression d'être Philippe Bouvard quand je dis ça. Donc, parmi les 21 candidats, il y en a 11 qui ne partagent pas le même prénom qu'un ancien candidat. Lesquels?
Chalice.
Flavio.
Oui, un point Freeze.
Arnaud.
Deux points Freeze.
Mathieu.
Non.
Maxine.
Il y a déjà eu un Mathieu.
Maxine, ça c'est Gino, donc deux frises de Gino.
Laure.
Laure, oui. Alors ça, c'était Stéjade, ça.
Gabin.
Alors, un point, donc un point Jade, trois points frise, oui, Gabin.
Chanis.
Deux points Gino.
Et, Sylviane.
Laetitia.
Bien joué. Alors ça, c'est quoi, c'est qui a dit Sylviane?
C'est moi. C'est moi.
un point Boubac.
Laetitia.
Thomas.
Alors, Laetitia aussi, ça c'est Jade. Donc deux points Jade. Donc un Boubac, deux Jade, deux Gino, trois frises.
Thomas.
Jonathan.
Non, il y en a déjà eu.
Oui, Jonathan, bien joué.
Vincent. Non, Vincent, il y en a eu, putain.
Alors, Jonathan, c'est... Jade. C'est Jade, ok. Donc, Jade qui revient à hauteur de frise. Donc, ça fait 3 Jade, 3 frises. 2 Gino et 1 Boubac. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il vous en reste 2.
Myriam.
Non.
Il y en a déjà eu, non.
Il y en a déjà eu. Hervé ?
Oui, Freeze. Et dernier, alors désolé, je crois que vous l'aviez dit, bah c'est une candidate jaune.
Lucie.
Oui, bien joué.
Myriam.
Donc c'est Jade ?
C'est Jade.
Ok, bah du coup, ça fait égalité entre Freeze et Jade. Donc 4 partout pour l'instant. Donc 2 points pour Gino et 1 point pour Boubac. Autre question. Dans cet épisode, il y a 3 aventuriers qui n'ont pas eu de confessionnaux. Lesquels?
Gabin.
Alors, Gabin, je crois que Boubac qui l'a dit en premier.
Laetitia.
Oui, Freeze. Et.
Et Thomas, peut-être bien.
Non.
Mathieu.
Ah.
Non. Alors, indice, c'est une personne de l'équipe rouge.
Arnaud.
Magali.
Non.
Magali.
Frédéric.
Magali.
Oh oui, bien joué.
Ah oui, Magali, c'est vrai.
Ah bah, du coup, 3 points pour Boubac, qui revient un petit peu, qui revient dans le sillage de Freeze et Jade. Et alors, dernière question, là, c'est une question, on va dire, un peu plus historique. Il y a eu, dans l'histoire de Koh-Lanta, 5 candidats qui ont été éliminés à un conseil malgré un collier dans leur poche. Est-ce que vous pouvez me citer ces 5
candidats? Théo.
Charlotte.
Sandro.
Charlotte. Sandro. Alexandra. De quelle 16?
Et du coup, bah, je crois que vous les avez tous dit, là.
Ouais, ça fait 5.
Bah, donc, il y avait donc Alexandra de la saison 7, bravo Booba, qui avait Sandro, il y a eu Béatrice à la Guerre des Chefs, et Charlotte et Théoura, lors de l'île des héros. Et du coup, bah, je crois que le vainqueur, encore une fois, et bah, c'est Freeze. Voilà, bravo Freeze. Chaque jeu sur ADF, c'est comme la phrase dans les années 80, c'est que à chaque fois, il y a des jeux, et à chaque fois, le vainqueur à la fin, bah, c'est Freeze.
Ouais, mais il y avait une belle concurrence, bravo à tous.
Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir joué le jeu, et puis merci à vous d'être intervenu sur cet épisode, on avait quand même pas mal de choses à dire.
Ouais, c'était un bon épisode, c'était cool. Ouais.
Tout à fait.
Donc merci à Freeze, merci à Gino.
Merci.
Merci à Jade.
Bah, écoute, toujours un plaisir.
Et puis quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine, vous connaissez le truc, pour débriefer l'épisode 5 de Koh-Lanta, les armes secrètes. C'était Damien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.